avons évoqué donc les libertaires dans le milieu étudiant, mais au Chili, il y a aussi des libertaires ailleurs. Et donc, moi, j'aimerais bien que tu nous fasses un petit peu le point sur le mouvement libertaire au Chili aujourd'hui.
Alors, le mouvement libertaire au Chili, il faut dire que c'est un mouvement extrêmement jeune. D'une part parce que les idées libertaires durant la dictature évidemment avaient du mal à s'exprimer, on avait du mal à se faire entendre évidemment avec la répression, mais aussi parce que la tradition libertaire en Chili, comme dans d'autres pays d'Amérique latine, jusqu'aux années 25 disons, était extrêmement forte. Et le mouvement libertaire imprégnait le mouvement ouvrier. D'ailleurs, les premières associations ouvrières au Chili, comme en Argentine et dans d'autres pays d'Amérique latine,
comme à Cuba aussi,
comme à Cuba, bien sûr, étaient les pionniers. Ceux qui ont créé ces organisations ouvrières étaient des anarchistes. C'était relié au mouvement espagnol, notamment.
Bien sûr.
Puis, il y a eu l'hégémonie, à partir de la révolution russe, des bolcheviques et des communistes, qui a fait que les libertaires ont perdu beaucoup d'influence dans le mouvement ouvrier. Bon, il y a toujours eu des libertaires, parce qu'on le sait, sous l'unité populaire, au sein même du MIR, du mouvement de la gauche révolutionnaire, qui était majoritairement marxiste, il y avait des libertaires qui militaient.
Qui étaient plutôt des communistes libertaires, non?
Pas forcément. Non, pas forcément. Je pense qu'il y avait des gens qui étaient vraiment anarchistes, pas plateformistes, au mode d'Archinov. Bon, on a notamment des compagnons libertaires ici à Paris, comme Nestor Vega encore, sont des survivants de cette époque, parce qu'il a été arrêté, emprisonné, il est obligé de s'exiler. Donc il y avait des copains, il y en a eu d'autres, qui ont vécu à Paris aussi à une époque. Et il y a toujours une présence libertaire. Avec la dictature, il est évident que les organisations marxisantes, disons, ont vraiment pris le pas. On a retrouvé des gens du Parti communiste au sein du Front Manuel Rodriguez. On a retrouvé des gens du MIR dans la clandestinité, du mouvement de la gauche révolutionnaire. Il y avait très peu de libertaires, c'est évident. Et puis, il y a eu un renouveau de la politique après, avec le début de la transition démocratique. La Concertación est arrivée au pouvoir et on a vu naître une contestation contre le néolibéralisme qui était d'inspiration libertaire. C'était des gens très jeunes, souvent c'était des gens qui se définissaient comme anarcho-autonomes, anarcho-punk. Il y a eu les premiers squats qui ont commencé à exister à Santiago dans les années 90, à Valparaiso aussi. Et puis il y a eu une floraison d'organisations, de groupes, parfois très épisodiques. Ils n'avaient parfois pas une longue vie, mais c'était des groupes qui ont commencé à travailler dans les organisations de base, dans les quartiers, sur des thèmes très sociaux, dans les facs, et dans les écoles et dans les lycées. Et finalement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce mouvement libertaire est extrêmement dense dans beaucoup de secteurs.
Varié,
et il apporte énormément. Je parlais tout à l'heure de cette gauche révolutionnaire qui est parvenue à prendre la direction de la Fédération des étudiants chiliens, et les libertaires ont une place importante, puisque, comme je le disais tout à l'heure, ils ont un secrétaire général qui appartient au mouvement libertaire. Bon, sinon, moi, je voudrais parler, faire rapidement une présentation des organisations. Il y a, par exemple, il y a une grosse présence des anarcho-communistes et des communistes libertaires au Chili. Il y a une organisation qui s'appelle Alternativa Libertaria et qui vraiment fonctionne sur le mode d'alternative libertaire à Paris.
Ah oui.
Ils se définissent comme des anarcho-communistes. Ils reconnaissent la lutte des classes, évidemment. Ils se reconnaissent dans la plateforme d'Archinov. Je ne sais pas si tous les auditeurs connaissent la plateforme d'Archinov. Tu veux que j'en parle
un
peu ?
Bon. Au moins la présenter, parce que ceux qui ne connaissent pas, ils ne vont pas très bien comprendre de quoi il s'agit.
Alors, Archinov, c'était un communiste anarchiste russe qui a vécu sous la révolution russe. Après la révolution de 1917, alors à un moment où les bolcheviks ont pris tous les pouvoirs, ont installé une véritable dictature basée sur une présence militaire dans tous les terrains, pas seulement au niveau de l'armée, mais aussi au niveau de l'industrie, on le sait. Archinov a considéré qu'il fallait que les anarchistes se définissent redéfinissent leur intervention dans le mouvement social. Et un peu fasciné par le modèle bolchevique, il faut le dire, Archinov a écrit une plateforme où il considérait que les communistes anarchistes devaient se structurer en tant qu'organisation politique. Et un peu à cause de cette fascination, finalement, en définissant très clairement le rôle de l'avant-garde, encore que, bon, il ne l'affirme pas vraiment, mais c'est une avant-garde non étatique. Enfin, tu vois, il est parfois question de dictature anti-étatique. Enfin, c'est un peu complexe. Eh bien, Archinov influence le mouvement anarchiste russe et une partie du mouvement anarchiste européen et latino-américain, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, au Chili, il y a cette organisation qui est à Valparaiso, il y a une fédération communiste libertaire à Santiago, il y a une organisation communiste libertaire. Ils ont le malheur, ces gens-là, de ne pas réussir à s'entendre.
C'est-à-dire qu'ils sont communistes libertaires, mais ils ne s'entendent déjà pas entre eux.
Et donc, ils se retrouvent à différents points dans des organisations spécifiques plateformistes, mais ils n'arrivent pas à faire l'union.
Alors, juste pour petit rappel, la fédération anarchiste, elle, est synthétiste, et donc elle comprend tous les courants du mouvement libertaire.
Voilà, donc on a connu ça en France. Bon, il y a encore des gens qui se réclament de l'anarcho-communisme. Et au Chili, bon, ils sont extrêmement importants, ils ont beaucoup d'influence. Alors, par ailleurs, il y a des gens qui se réclament d'un anarchisme social qui n'est pas communiste anarchiste. Les gens du courant révolutionnaire anarchiste, eux, se réclament de l'autogestion et aussi pensent qu'il faut intervenir au niveau des luttes sociales, des organisations de base. C'est des gens qui essayent d'avoir une vraie pratique révolutionnaire, une praxis révolutionnaire aussi. Il y a des gens comme le centre social Ocupa de Sacco e Vanzetti de Santiago. Ça, ce sont des squatteurs qui ont occupé, parce qu'aujourd'hui, ils sont victimes de la répression. J'en viendrai après cette expérience. Il y a aussi, dans d'autres villes, notamment Valparaiso, des Ocupas, comme on appelle ça là-bas.
Le mouvement des squatteurs est très important en Chine.
Très important, dans beaucoup de différentes villes. Et puis, et on va en arrêter là, parce qu'il y a une multitude de groupes qui naissent, qui disparaissent. Bon, on ne peut pas parler de tous ces gens-là. De grandes organisations.
Mais il y a une effervescence qui existe
partout, ça c'est évident. D'ailleurs, il suffit de se balader dans les rues de Santiago et de Valparaiso. T'as des slogans, des bombages, des muraux, parce que les Cubains aiment beaucoup les muraux, les peintures de rue, comme ils le faisaient sous l'unité populaire, ou comme l'ont fait les muralistes mexicains. Donc il y a des belles choses, et ils travaillent aussi là-dessus. Donc il y a des centres sociaux, culturels, anarchistes, un petit peu partout dans le pays. Et puis, allez, on va parler de cette expérience, parce qu'elle est intéressante, et elle dure depuis longtemps. Il y a une bibliothèque qui s'appelle la bibliothèque González Vera, qui est une bibliothèque anarchiste, qui met à disposition des gens à Santiago, des livres sur le mouvement anarchiste, son histoire, son histoire et son présent. Quoi. Et ça, c'est intéressant. Alors, moi, je voulais particulièrement parler à propos des anarchistes d'une affaire qu'on a appelée là-bas El Caso Bombas, l'affaire des bombes, à la suite de différents attentats en août 2010. Des militants anarchistes ont été arrêtés dans le cadre de l'affaire Caso Bombas. Il s'agissait essentiellement des gens qui venaient du centre social occupé Sacco e Vanzetti à Santiago. Ces gens sont toujours en prison. C'est des prisons de haute sécurité parce qu'on leur applique la loi antiterroriste qui avait été votée par Pinochet, au temps du gouvernement de Pinochet, qu'on applique aujourd'hui aux Mapuches et aux gens d'Aysén aussi. Donc c'est le Caso Bombas rapidement, c'est une série d'attentats explosifs qui ont eu lieu en 2009 et 2010 où un militant libertaire est mort avec sa bombe en essayant de faire sauter l'école de gendarmerie de Santiago. Donc ça a eu une répercussion énorme dans les médias, évidemment. On a parlé énormément des anarchistes. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout impliqués dans ces attentats. C'est un peu l'affaire Tarnac en France, qui se retrouvait victime de la répression, et avec une médiatisation énorme autour de l'affaire. Et aujourd'hui, ils sont accusés de terrorisme alors que ces gens sont innocents. Au fil des mois, comme à Tarnac, pour l'affaire Tarnac, le dossier s'est dégonflé petit à petit. Il y avait des hypothèses complètement fantaisistes qui avaient été mises en avant par la police, qui ne tiennent pas la route. Ils ont malgré tout quand même subi des détentions arbitraires pour beaucoup d'entre eux. Ça les a même poussés à la grève de la faim. 14 d'entre eux ont fait la grève de la faim. Et aujourd'hui, donc, on exige au Chili la libération de tous ces gens-là. Parce que la police, la justice n'a pas de preuves. Donc, tout dernièrement, le 17 mars, c'est des informations que je viens d'avoir, le tribunal n'a pas voulu fixer une date d'audience pour réviser ces questions-là. Évidemment, tout le monde se bat, le mouvement libertaire, le mouvement social, pour qu'on abroge enfin la loi antiterroriste de Pinochet, parce qu'elle réprime actuellement, elle permet de réprimer tout le mouvement social, tout le mouvement de contestation. Et voilà, aujourd'hui, les gens sont là. Ça mobilise énormément les anarchistes. Et bon, il faut espérer que la justice bourgeoise sera obligée de faire marche arrière sur ces questions-là et de libérer tous ces militants qui n'ont rien à faire en prison.
Alors, nous allons parler des Indiens, mais avant, on va faire une nouvelle pause musicale et on va écouter, justement, pour introduire la question des Indiens en Chili, une chanson de Serge Geroyo qui semble tout à fait appropriée, qui s'appelle Ah bon, on va l'écouter, puis je pense que les auditeurs reconnaîtront la chanson, parce que je pense qu'ils la connaissent pour beaucoup d'entre eux.
Radio Libertaire 89.4, vous êtes toujours dans l'émission Pas de quartier. Et l'émission continue par donc la chanson de Serge Ujeroyo.
Et que me sert de dire que tu avais raison, Indien, de ma mémoire? Tu parlais de la terre, ta mère, que le blanc convoitait. On ne croit pas au pire, on apprend la chanson qui sera notre histoire. Fandango de la guerre, berceuse pour l'enfer et musée pour la paix. Comme un vol de couteau traversant l'Atlantique, de funèbres galions se sont plantés au sud. Les soldats calibrés au modèle catholique n'ont pas su remercier l'Indien agenouillé. Les chevaux espagnols ont imprimé la peur, les cuirasses d'acier, la rage et les épées ont détruit le présent et fermé l'avenir. Depuis, le soleil a baissé un peu d'intensité. Indien, mon frère, 500 hivers ont recouvert tes chants sacrés. Des rois, des reines, des mercenaires et des curés t'ont crucifié. Les clans et les tribus groupés dans les nations vivaient dans le respect de notre terre nourricière. Mais la foudre est venue, vomie par les canons, de nouveaux conquérants ont dévoré le nord. De défaites en réserve, les vrais Américains ont perdu leur espoir et refermé leur esprit. Piétinés lentement par les Européens, la fierté des survivants a sombré dedans la nuit. Indien, mon frère, 500 hivers ont recouvert tes chants sacrés. Des rois, des reines, des mercenaires et des curés
t'ont crucifié. Indien, mon frère, 500 hivers ont recouvert tes chants sacrés, des rois, des reines, des mercenaires et des curés t'ont crucifié.
Radio Libertaire 89.4, toujours dans l'émission Pas de quartier. Je vous laisse en compagnie d'Agnès qui faisait l'interview de Daniel. Ne quittez point.
Vous avez écouté donc Serge Gerouillo, 500 hivers. Et donc, bien évidemment, la suite de l'émission porte sur les Amérindiens au Chili. Donc, qui depuis une bonne dizaine d'années luttent contre le pouvoir central. Et parmi eux, les plus nombreux sont les Mapuches. Et Mapuche, on dit, c'est ça ?
Mapuche.
Mapuche, qui veut dire peuple de la terre ?
Oui, peuple de la terre, gens de la terre.
Ouais. Gens de la terre, ouais. Qui représentent près de 82% des populations autochtones. Et donc on assiste, pas seulement effectivement au Chili, dans toute l'Amérique latine, à la renaissance de ces peuples autochtones des Amériques. Et donc cette renaissance a été un peu connue quand même du grand public par les célébrations marquées du 5e centenaire de la conquête des Amériques, le 12 octobre 92. C'est un peu... cette occasion-là que, y compris en Europe, on s'est rappelé qu'il y avait des peuples amérindiens qui ont été spoliés de leurs terres et de leurs droits. Et donc aujourd'hui, les organisations amérindiennes se révoltent et poursuivent le combat pour ces droits, et particulièrement donc au Chili. Avant de parler de ces luttes, est-ce que tu peux nous brosser un tableau des conditions de vie de ces Amérindiens, et en particulier des Mapuches que tu connais plus particulièrement ?
C'est évident que ces populations, actuellement, il y a 2200 communautés Mapuches au Chili. C'est réparti tout au sud du fleuve Biobío. C'est le sud et c'est les terres ancestrales des Mapuches qui se trouvent au sud du Biobío. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu l'as donné le chiffre, mais il y a environ 800 000 Mapuches au Chili. Et parmi eux, il y a 30% de cette population qui a été obligée d'émigrer dans la misère des grandes villes.
Ah oui.
Ça, c'est des chiffres qui sont implacables. C'est terrible, quoi, de se dire qu'une partie de cette population, qui est une population sédentaire, composée de paysans, pour des raisons économiques. Et ce sont les parias dans les grandes villes. Ce sont des parias, c'est eux qui sont les plus précarisés, qui vivent dans les pires conditions, parce que ce sont des Indiens. Il existe un racisme anti-indien extrêmement développé aujourd'hui encore, dans la population même du Chili, même chez les gens qu'on appelle là-bas les Cholos, les Métis, rejettent ces Indiens qui font partie quand même, dont ils sont issus quoi, de ce peuple indien. Ils sont issus de ce peuple indien. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de difficultés et ils sont expoliés, on ne cesse de leur retirer leurs terres au nom du développement économique. C'est évident que la mission de pacification de l'Araucanie, comme l'avaient appelé à l'époque les Espagnols, n'est pas finie. Il faut pacifier encore l'Araucanie. Et même si on leur a redistribué à l'époque des Espagnols la terre, soi-disant, il y a un mot qui est significatif, c'est que ces terres qu'on a accordées aux Mapuches, on les a appelées des réductions. Le mot est fort et bien parlant, c'est évident. Quoi. Donc ces paysans, mais ils continuent à réclamer les terres qu'on leur a volées. C'est évident, c'est Mapuches. Ces terres qui sont occupées par des propriétaires terriens, par les grandes entreprises minières qui exploitent le sous-sol, les grandes entreprises forestières. On parlait tout à l'heure d'Aïssen et on a les mêmes problèmes dans les autres territoires du Sud. Les grandes propriétés agricoles aux mains des gens d'origine espagnole. Et puis aussi les consortiums touristiques qui aujourd'hui s'emparent des terres des Mapuches pour en faire des parcs, construire des hôtels au bord des lacs, dans les régions les plus belles qui sont devenues les plus touristiques. Donc c'est évident que ça fait, comme tu le disais, oui, ça fait depuis 92 effectivement qu'il y a une renaissance des Mapuches. Et ils se battent à tel point qu'ils sont eux aussi victimes de la loi antiterroriste mise en place par Pinochet. De juillet à octobre 2010, 37 prisonniers Mapuches se sont sacrifiés pour dénoncer la criminalisation
de leur lutte
et pour dénoncer bien sûr l'application de cette loi antiterroriste et qui a été qui est resté inaltérable avec les quatre présidents, les cinq aujourd'hui avec Piñera, qui ont succédé à Pinochet.
Donc si on fait le décompte, la présidente socialiste ne l'a pas remis en question.
Il y a eu deux présidents socialistes.
Deux présidents socialistes.
Un président, Ricardo Lagos, et Michel Bachelet. Tous les deux ont continué à appliquer au Mapuche cette loi. Donc cette loi, elle rend ces Mapuches passibles d'un double jugement, civil et militaire. Elle permet leur détention sans limite de temps. Et puis,
une forme de détention qu'on appelle ailleurs administrative, c'est-à-dire sans limite de temps et renouvelable.
Arbitraire, effectivement. Et les peines dont ils écopent sont multipliées par 3 lorsqu'il s'agit d'eux. Et en plus, on empêche les avocats d'avoir accès aux dossiers, aux preuves. C'est très particulier, c'est une loi extrêmement répressive qui a été faite, je rappelle, durant une dictature, quoi, qui a été faite, votée pendant une dictature.
Et qui s'applique particulièrement aux Indiens.
Jusqu'à présent, aux Mapuches, on a pu voir avec Aysen qu'elle peut s'appliquer à n'importe quel Chilien qui s'attaque à l'ordre social existant, établi. Alors, il y a une chose qui est intéressante aujourd'hui, c'est que quand Piñera est arrivé au pouvoir, il a créé ce qu'on appelle le plan Araucania. Araucania, c'est le nom de la région, et les Araucans étant les habitants, on peut aussi les définir comme ça, les Mapuches des Araucans, qui habitent dans cette région du sud. Et ce plan Araucania, qu'est-ce qu'il prévoit ? Eh bien, par exemple, il prévoit d'accorder l'immunité aux témoins qui accusent les Mapuches, sans que ces témoins soient connus. C'est-à-dire que leur témoignage reste totalement caché des inculpés, des avocats et des médias en général. Donc
ça veut aussi dire que, bien évidemment, on favorise la délation,
évidemment.
Mais on favorise aussi le fait de raconter des choses qui ne sont pas forcément vraies, puisque de toute façon, on ne peut pas savoir d'où vient l'accusation.
Oui, voilà. Donc ils sont complètement anonymes, ces témoignages restent anonymes, et on ne peut pas vérifier la crédibilité de ces gendarmes, ni des faits qu'ils évoquent, puisque de toute façon on n'a pas accès au dossier. Plus grave encore, la police et les pouvoirs publics sont soupçonnés d'inciter ces témoins à mentir moyennant de l'argent. Il y a eu des cas qui le prouvent, hein, des menaces ou des chantages même parfois. Donc c'est extrêmement grave parce qu'on s'aperçoit que ces choses-là n'existaient même pas au temps de la dictature de Pinochet. Donc, par exemple, il y a un cas d'un homme, c'est un journaliste de la région qui évoque ce cas, d'un homme qui aurait reçu des sommes mensuelles de 100 000 pesos en plus d'un prêt de 12 millions de pesos pour l'acquisition d'un terrain. Et c'était un témoin. Et parmi ce témoin-là a déjà participé à 5 procès de militants Mapuches. C'est-à-dire qu'on instrumentalise des individus, moyennant finances, pour fabriquer des témoignages à charge.
C'est vraiment terrible. C'est un système extrêmement pervers.
Bien sûr. Alors, il y a aussi, étonnamment, des anciens délinquants ou des anciens criminels repentis qui sont aussi des témoins à charge et qui bénéficient mystérieusement de la bande-son de poursuite. C'est arrivé aussi. Les avocats ont eu des preuves. Bon, ça a été repris en partie dans la presse du Chili, mais on n'a pas de preuves réelles, quoi. Il y a un soupçon, mais étant donné que tout ça est caché, bon, on n'a pas les moyens d'apporter des preuves et de poursuivre la police pour de tels actes. Alors, le plan Araucani de Spinel, il permet des choses qui n'existaient pas jusqu'à maintenant. Par exemple, le fait de permettre des violations de domicile à chaque instant chez les Mapuches, dans les communautés Mapuches, avec avec une violence inouïe. Et on s'attaque aujourd'hui à des vieillards, à des enfants. Il y a eu des enfants qui ont été battus par la police pour leur arracher un témoignage. C'est arrivé dans certaines communautés. Bon, les arrestations préventives, on ne cesse. Et bon, c'est lié à tous les montages politico-judiciaires qui ont lieu en parallèle, quoi. Et sans fin, parce que ça, à chaque jour, on a des preuves de ce genre de pratiques. Donc c'est un climat policier répressif qui se développe et qui vise
à faire taire
les communautés Mapuches et les obliger à accepter les plans de développement, parce que par ailleurs, évidemment, c'est un espèce de brouillard où on dit mais on va leur permettre une réinsertion, on va apporter des moyens financiers pour permettre la réinsertion, ils sont trop marginalisés. Mais bon, ce discours-là, on l'entend depuis malheureusement plus d'un siècle, et ça n'a jamais marché. Pourquoi ? Parce que de toute façon, les gouvernements, tout ça, c'est du bluff. Les gouvernements, ils veulent absolument faire taire les Mapuches parce qu'il faut s'emparer de leurs terres pour le bien-être du pays, pour l'économie du pays. Et c'est très pervers, et les Mapuches le vivent évidemment très très mal, parce qu'on ne compte plus le nombre de Mapuches qui ont été détenus, qui ont été emprisonnés. Le nombre d'assassinats, en 5 ans, il y a eu 3 morts, notamment 2 jeunes adolescents tués par la police. Et ce plan Araucani et la loi antiterroriste se complètent très bien pour discriminer, pour les discréditer aussi, les Mapuches. C'est une nouvelle guerre d'extermination. On ne peut pas l'appeler comme ça, l'OTAN des Espagnols, une guerre d'extermination, comme les Espagnols l'appelaient à l'époque. C'est une guerre de pacification, disons. Et
Pacification, on sait ce que ça veut dire. On sait très bien ce que ça veut dire, une guerre de pacification.
Et il faut dire une chose. Pour finir, peut-être, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, c'est que ces militants que l'on te juge comme des terroristes n'ont jamais tué personne. Il n'y a jamais une victime policière des Mapuches.
Justement, je voulais te demander quels sont le type d'actions qu'ils mènent pour tenter de se faire entendre.
Ils font des occupations de terres. Leurs armes, aujourd'hui, c'est la fronde. Ils usent de pierres, parfois des cocktails Molotov dans des situations extrêmement tendues. Mais c'est tout. Il n'y a absolument pas d'armes à feu. Ils n'ont pas de bombes. On accuse les anarchistes d'utiliser des bombes. Parfois, c'est vérifié. C'est vrai, il faut le dire. Mais les Mapuches n'ont jamais atteint ce degré de violence. Alors, effectivement, de temps en temps, il leur arrive d'allumer un incendie sur les grandes parcelles de terre cultivées par des gros propriétaires. Mais c'est leur terre qu'ils incendient. C'est leur terre d'avant, celle qu'on leur a volée. Donc, c'est un symbole aussi qu'ils détruisent. C'est la terre qu'on leur a volée. Donc, voilà, il y a quand même des choses inquiétantes aussi. C'est que un des carabiniers qui a tué un jeune étudiant mapuche, Mathias Catrillé, en 2008, a été jugé dernièrement. Il n'a reçu que 3 années de travaux communautaires. Ça veut dire qu'il n'ira pas en prison. Qu'est-ce qu'il va faire ? On va l'embaucher à des travaux communautaires. On ne sait pas ce que c'est. Mais c'est évident qu'un assassin, aujourd'hui, est libre au Chili. Et quand il est jugé en fonction du rôle qu'il joue au service du pouvoir. C'est évident. Donc, malheureusement aussi, il faut bien dire une chose, c'est que dans les médias, en France et dans d'autres pays du monde, on parle très peu de la lutte des paysans Mapuches. C'est comme Aysén. Oui. Ça n'intéresse personne. La remise en question profonde des pouvoirs. là où elle se trouve, n'intéresse pas les médias. Parce que c'est une remise en question qui va beaucoup trop loin, évidemment. Donc au Chili, les gens souffrent de cette situation-là et malheureusement du silence médiatique qui entoure tous ces faits, quoi.
Alors avant de terminer l'émission, on va rappeler que au mois d'août, du 4 au 12 août à Saint-Imier, il y a une rencontre internationale d'anarchistes et que parmi ces anarchistes, il y aura bien évidemment des Chiliens. Donc si vous souhaitez rencontrer des Chiliens anarchistes et pouvoir discuter en direct avec eux, bah, c'est le moment d'aller en Suisse pour les rencontrer. Voilà, je pense à moins que tu veuilles rajouter... Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Je voulais juste te dire que le 7 avril,
ah oui,
rue des Vignoles au 33, les éditions CNT à Paris dans le 20e, organisent une fête du livre, où comme à chaque fête, en début d'après-midi, ça commence à 14h, à chaque fête, nous vendrons nos livres. Nos livres récemment édités et les plus anciens, mais aussi pas mal de bouquins d'occasion. Bon, c'est la tradition aux éditions CNT de les vendre et on espère que vous serez nombreux.
Je vous rappelle l'adresse.
Alors, c'est au 33 rue des Vignoles à la CNT, dans les locaux de la CNT. J'espère qu'avec le beau temps, on pourra s'installer dehors. Et ça se passe dans le 20e. Et voilà, j'espère que vous serez nombreux à venir. Il y a de très bons bouquins. Il y a notamment des belles affaires à faire.
Oui, oui, il y a de très belles affaires à faire, des bouquins d'occasion, des bouquins qu'on pensait épuisés, des fois qu'on trouve aussi à cette occasion. Nous allons laisser la parole, bah justement, à Parole d'Association. Et donc, je vous souhaite une bonne semaine. Et donc, nous laissons l'antenne à Sylvie de Parole d'Association. Nous remercions Anne qui était à la technique et donc Daniel Pinos qui était notre invité pour parler aujourd'hui du Chili.
Radio Libertaire 89.4, dans l'émission Pas de quartier vient de se terminer. Il s'agissait donc, comme vous l'avez compris, de l'entretien d'Agnès avec Daniel Pinos, qui parlait du Chili. L'entretien avait été enregistré jeudi dernier et j'ai essayé de faire de mon mieux pour vous le diffuser ce soir. Et maintenant, le générique de Paroles d'Association.